Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. C'est un loisir qui connaît un fort engouement depuis le début de la crise sanitaire, la généalogie. La pandémie a laissé beaucoup de temps aux amateurs pour se lancer à la recherche de leurs ancêtres. Bien souvent, c'est la mort d'un proche qui déclenche l'envie d'en savoir davantage sur son passé familial. C'est aussi par pur plaisir que l'on se lance dans ce hobby très prenant et stimulant intellectuellement. Mais que recherche-t-on quand on s'immerge dans cette passion? Quelle satisfaction personnelle en retire? Au risque parfois de déterrer des secrets de famille plus ou moins avouables. Alors si vous avez envie de vous lancer dans la confection de votre arbre généalogique, nous allons vous donner des conseils pour vous y mettre. Et vous, racontez-nous votre passion pour la généalogie. Qu'avez-vous découvert sur votre famille? Comment vous y êtes-vous pris pour mener votre enquête? 01 45 24 7000. Sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rebéi, grand bien vous fasse.
Nos origines sont un petit élément du puzzle qui nous constitue. Mais comme beaucoup d'éléments du puzzle qui nous constitue sont incertains, beaucoup de gens se disent que au moins cette pièce, leurs origines, s'ils peuvent l'éclaircir, ça va les aider. Alors d'ailleurs, le résultat n'est pas à la hauteur de ce qui était attendu, mais c'est important de favoriser cette démarche, c'est important de donner aux gens le droit de connaître leurs origines, ça leur permettra, une fois qu'ils les connaissent, d'aborder leur vie en laissant ça de côté, parce qu'ils le sauront, et en s'intéressant à beaucoup d'autres choses.
Le psychiatre Serge Tisseron sur France 3 en 2018. Bonjour Sandra Fontaneau.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste de la généalogie. Vous avez soutenu une thèse en 2012 sur cette pratique et vous êtes ingénieur à l'université de Picardie, Jules Verne. Bonjour Marie-Odile Merniac.
Bonjour.
Vous êtes généalogiste et éditrice. Alors dans votre abondante bibliographie, j'ai retenu Généalogie, remonter son arbre par internet et en archives. Et c'est publié chez Archives et Culture. Et vous publiez une série de livres pour enfants et adolescents. Ça s'appelle Mon enquête de généalogie. C'est publié chez Rajo. Bonjour François. François Baron.
Bonjour Ali.
Vous êtes vice-président de l'association Les Jeunes et la Généalogie et vous êtes administrateur de la Fédération Française de Généalogie. Alors qu'est-ce que la généalogie exactement, Marie-Odile Merniac?
Un grand plaisir pour occuper ses temps libres. Et on en a eu effectivement beaucoup pendant le confinement et c'est quelque chose que l'on peut faire maintenant par Internet, ce qui facilite les recherches. Le nombre d'inscrits sur les sites des archives départementales, c'est déjà un pas bien avancé en généalogie, a doublé dès le mois d'avril 2020.
Sandra Fontaneau, ce fut longtemps la généalogie une activité élitiste et c'est devenu un hobby très très populaire.
La généalogie a connu deux vagues de démocratisation dans son histoire. Une dans les années 70 qui a permis déjà un premier pas pour le monsieur tout le monde, en fait, en quelque sorte. Et puis, dans les années 90-95, notamment avec les écrits de Marie-Odile et de ses collègues, ça a été l'occasion pour tout le monde de découvrir la généalogie, des méthodologies très simples à appliquer, des recherches faciles et accessibles, en fait.
François Baron, dans notre pays, environ 6 millions de personnes ont un jour esquissé une recherche familiale.
Oui, absolument. Et c'est une activité qui n'est pas forcément réservée aux seniors, puisque les jeunes font de la généalogie et leurs éducateurs, leurs professeurs d'éducation morale et civique et d'histoire et géographie les initient à cette activité qui est une activité qui leur permet d'accéder à tout un tas de pans de la culture, l'histoire, la géographie, le français, l'anglais, que sais-je.
Pour vous, c'est un loisir passionnant qui vaut tous les romans policiers. Vous êtes un peu, vous, les généalogistes, des Maigret, des Sherlock Holmes, de l'enquête familiale.
Absolument, ouais. Absolument. Combien nombreuses sont les soirées où on est à 2h, 3h du matin devant notre ordinateur à rechercher l'élément qui nous manque. C'est une enquête, c'est effectivement, comme vous disiez, un puzzle aussi, qui se construit petit à petit au fil du temps.
Marie-Odile Merniac.
Oui, complètement. C'est comme un mot croisé géant. Dès qu'on a trouvé deux cases, c'est-à-dire deux parents dans des branches de notre arbre, on a aussitôt quatre cases nouvelles à remplir, qui sont leurs propres parents, etc. Et ensuite, lorsque les cases semblent à peu près remplies, on a envie de s'intéresser à la vie de ces gens-là, et puis creuser. Et à ce moment-là, on devient presque biographe. On devient romancier de sa propre aventure familiale. Ça, c'est très sympa.
Sandra Fontaneau, c'est un hobby qui connaît un engouement depuis le début de la pandémie. Pour quelle raison principale?
Oh ben je pense que mes collègues aujourd'hui en ont parlé. C'est très très addictif tout d'abord. Mmh. Et puis c'est quelque chose, Marie-Odile l'a signalé, qui est très facile d'accès maintenant avec Internet. Et je pense qu'au moment de la pandémie, alors là en tant que chercheur, je n'ai pas de recul encore. Mmh. Le temps de la recherche est assez long, donc c'est difficile de le dire de manière scientifique. Mais effectivement, être enfermé chez soi, voilà, on n'a pas besoin pour faire de la généalogie d'un ukulélé ou d'un, je sais pas, d'un vélo d'appartement. Une connexion internet, c'est parti, un stylo, un crayon, à la rigueur. Et puis c'est très très addictif, très rapidement en fait. Hein, c'est vraiment les personnes parlent souvent de mettre le doigt dans l'engrenage, mais c'est exactement ça. Et on est capable de passer, comme disait Monsieur Baron, des heures et des heures pour trouver un acte. Une fois qu'on l'a, on est extrêmement content. Et puis c'est, voilà, il faut recommencer.
Oui, absolument. Quand on ne trouve pas, on a envie de continuer parce qu'on veut trouver quelque chose. Et quand on trouve, on dit, oh, bon, on va encore retrouver quelque chose d'autre. Absolument.
Et la perte d'un proche qui symbolisait la mémoire familiale, ça peut provoquer cette envie de recherche généalogique. Hein.
Absolument. Moi, ça a été mon cas, puisqu'en fait, j'avais un petit frère qui avait un an de moins que moi, qui est décédé à 12 ans, et sur le moment, je répondais à une demande de ma mère qui disait « je veux découvrir le métier de mes ancêtres », mais j'ai mis 20 ans à analyser le fait que de côtoyer la mort m'a permis d'accéder à cette volonté de rechercher l'histoire familiale. Et finalement, on est comme des collectionneurs de morts au lieu de collectionner des timbres ou des bouchons de bouteilles un petit peu.
Oui, collectionneurs de morts, c'est un petit peu triste.
Je dirais qu'on est
qu'on est des passeurs de mémoire.
Bah, oui.
Et donc, on poursuit vers l'avenir ce que l'on a récolté dans le passé. On apprend et puis on transmet et on voit que tout continue. C'est ça qui est aussi très sympathique.
Il y a absolument une envie de transmission.
Sandra Fontano, existe-t-il un portrait type de l'amateur de généalogie?
Oh, il est difficile. On peut croire au premier abord qu'il y a autant de généalogistes que de généalogie. C'est pas tout à fait le cas. Il y a effectivement des parcours qui se recoupent. On parlait justement de parfois de secrets de famille à résoudre, ce genre de choses. Il y a aussi des personnes qui restent dans le côté un peu collection et compulsion de recherche d'ancêtres. Je me souviens quand je suis arrivée sur le terrain il y a quelques années, mon neveu était à l'école primaire et quand certains généalogistes me parlaient de leur recherche, ça ressemblait à la collection de cartes Pokémon de mon neveu. Il y avait des échanges comme ça. Et puis il y a ces chercheurs, ceux qui sont peut-être le moins nombreux mais qu'on voit le plus aux archives, ceux qui consacrent entièrement leur vie à la généalogie, mais pas forcément à la leur, à celle, j'ai rencontré un monsieur par exemple qui faisait la généalogie de son facteur, parce que la sienne était, il considérait terminée, ou en tout cas il était bloqué à certains endroits, et ce sont des généalogistes voilà, qui prennent beaucoup de place, qui prenaient beaucoup de place dans les archives, je ne sais pas si on les voit encore toujours autant, mais voilà, ce sont des personnes comme ça qui peuvent être passionnées.
Marie-Odile Merniac.
Oui, on a beaucoup d'entraide, effectivement, en généalogie. Au moment du confinement, par exemple, les archives départementales d'Indre-et-Loire avaient proposé une indexation collaborative. Elles avaient des milliers de cartes de combattants des années 1870 à 1914. Elles ont proposé que chacun sur Internet les indexe. Si ça avait été fait en interne, les archives considéraient qu'il fallait un an et demi, avec l'aide de tout le monde, une semaine. En une semaine, tout était indexé.
En tout cas, François Baron, ce n'est pas un loisir réservé aux seniors, aux retraités qui ont du temps. Hein.
Absolument pas. L'association dont je suis vice-président, nous faisons des ateliers avec, par exemple, récemment, les archives diplomatiques, où nous avons accueilli des classes de CM1 et CM2. Ce qui permet à des enfants qui sont quelquefois dans des quartiers défavorisés, de comprendre... Par exemple, avec Romain Gary, qui a été un immigré et qui est devenu un représentant de la France, que ces enfants-là ont aussi la possibilité d'accéder à des postes importants, quelle que soit leur histoire familiale. La généalogie permet aussi à certains enseignants de pratiquer par exemple, de l'anglais. J'ai fait une classe sur une année avec deux institutrices qui avaient beaucoup d'enfants dont certains parlaient pas français, des petits CM1, CM2. Et par contre, l'histoire de la famille d'Angleterre, ils connaissaient tous. Donc pour faire de l'anglais, la généalogie de la famille d'Angleterre, c'est génial.
Sandra Fontano, la généalogie, c'est un loisir valorisant. Parmi les motivations, parfois, l'espoir de dénicher un ancêtre prestigieux ou qui a marqué l'histoire.
Hein. Oui, ça reste une valeur sûre. Hein. Souvent, quand on parle avec des généalogistes... Très rapidement, ils nous le disent, quelle personne connue est proche de leur filiation. Je pense que c'est un peu moins le cas dorénavant. Je pense que la généalogie est pour certains aussi une manière de se réaliser socialement, de briser une trajectoire qui aurait été peu favorable à l'origine, et puis de se construire un monde comme ça, sur mesure, avec une famille qu'ils remettent en place. Ils deviennent un petit peu les experts de la famille dans leur famille, mais aussi au niveau local. Et puis, ils peuvent parfois aussi rédiger des écrits, devenir des spécialistes en un domaine. Monsieur Baron me parlait tout à l'heure des moulins. J'ai rencontré une dame comme ça en Charente qui travaillait sur les moulins locaux, et elle était une référence locale. Elle était devenue, alors qu'elle était fille d'ouvrier, femme d'ouvrier, et qu'elle n'avait pas fait d'études, et elle se réalisait comme ça. C'est aussi une possibilité.
Écoutons Chris qui nous a laissé une note vocale sur l'appli France Inter.
Bonjour Ali, c'est Chris. Je suis anglais, je vous écoute en Angleterre. J'ai découvert quelque chose de passionnant sur mon arbre généalogique. C'est que je suis apparenté de très lointain, évidemment, à Guillaume le Conquérant. C'est mon 30 fois arrière-grand-oncle. En fait, c'est pas grand-chose, car si on considère le nombre de gens qui vivaient il y a 1000 ans, tout probablement, il y en a énormément entre nous qui soient apparentés à lui. Mais passionnant d'avoir l'évidence documentaire quand même. Mes amitiés à tous et passez un joyeux Noël.
Marie-Odile Merniac, c'est excitant parfois de se découvrir un prestigieux ancêtre.
Oui, 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 oui. Alors on dit qu'on a tous dans notre arbre un roi et un pendu, donc on peut chercher soit l'un, soit l'autre, soit les deux.
Et pour vous, François Baron, la généalogie, ce n'est pas seulement savoir si l'un de ses ancêtres était un roi de France.
Non, d'ailleurs pour moi, c'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse plus, c'est de reconstituer les petites vies individuelles de personnages de sa famille qui n'ont jamais été mises en lumière dans l'histoire. Donc ils ont ces petites histoires, on peut les raccrocher aussi à la grande histoire de France. Arlette Farge parle
d'historienne,
dont je m'inspire beaucoup, et je suis à peu près dans son mode de pensée.
Alors la généalogie, ce n'est pas seulement la recherche de ses ancêtres, c'est également un moyen de mieux connaître sa famille, Marie-Odile Merniac.
Oui, et c'est justement ça qui touche beaucoup les enfants. Sortir déjà des photos pour eux des années 1900 ou 1930 ou même 1950, ils voient les différences de vêtements, ils voient des uniformes, parce qu'il y a des guerres, les deux dernières guerres mondiales qui ont touché leur famille. Ça les amène d'abord à ancrer leur famille dans une histoire plus longue qui appartient à l'univers, au monde, et puis à interroger leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents s'ils en ont encore, et ça renoue le dialogue entre les générations, et ça c'est vraiment sympa.
À titre personnel, la médaille militaire de mon arrière-grand-père maternel en 1918, moi, me donne envie d'en savoir plus sur cet ancêtre. Alors, quand on est issu d'une famille des anciennes colonies, c'est difficile ce genre de recherche.
Alors, tout l'état civil a été numérisé et peut être trouvé sur le site des Archives Nationales d'Outre-mer, donc en ligne. Les ANOM, voilà, qui sont à Aix-en-Provence, mais maintenant il n'y a plus besoin de se déplacer. Et puis pour la médaille militaire, les dossiers individuels sont conservés par le musée de la Légion d'honneur à Paris. Et vous avez aussi les fiches matricules de chaque militaire des deux guerres mondiales qui sont accessibles. Pour ceux de la Première Guerre mondiale, c'est accessible en ligne sur Grand Mémorial.
Oui, voilà. Ou Mémoire des Hommes.
Mémoire des Hommes, non, ce sont les morts pour la France.
C'est les morts pour la France, pardon.
Donc les registres matricules sur Grand Mémorial.
Sandra Fontano, peut-on dire que la généalogie permet une sorte de réalisation de soi?
Oui, absolument. J'aime beaucoup le concept d'univers de consolation, mis en avant par Claude Polyak au sujet des écrivains amateurs, et c'est un peu la même chose pour les généalogistes. Avec la généalogie, on peut se construire son univers, on reconstitue sa lignée, sa famille. Parfois, on choisit les ancêtres que l'on veut trouver et privilégie certaines lignées, certaines branches plus que d'autres. Et puis, ça permet effectivement de se réaliser, de devenir parfois, je vous le disais tout à l'heure, un expert. Et d'avoir un peu de gratitude, de reconnaissance. Et ça permet à certaines personnes issues de classes populaires ou classes moyennes d'accéder enfin à une espèce de revanche sociale qui leur a été privée, dont ils étaient privés jusqu'à présent.
Marie-Odile Merniac.
Oui, c'est surtout une belle leçon d'optimisme. Une fois, j'avais fait une conférence devant des gens présents et quelqu'un est venu me trouver à la fin en disant... écoutez, je suis chômeur, je suis en train de perdre mon logement, ma femme m'a quitté. Mais alors quand j'entends tout ce qui est arrivé aux générations d'avant, finalement,
moi je vais très bien. Je ne suis pas si malheureux que ça. C'était pire avant.
François Barou.
Ça peut soigner des gens. Hein. La psychanalyse, ça peut soigner des gens. La psychanalyse qui s'est emparée de la psychogénéalogie, qui est un des pans de la psychanalyse qui permet quelquefois de soigner des maux liés à des histoires familiales qui se sont transmises sur plusieurs générations.
Alors la journaliste de la rédaction internationale Claude Guibal, ici à France Inter, m'envoie ce message. Est-ce que la vague des tests ADN pour retrouver ses origines très à la mode, ont donné un nouveau souffle à la généalogie. Marie-Odile Merniac.
Alors oui, mais il faut rappeler que c'est théoriquement interdit en France.
En France, évidemment. Exactement.
On est susceptible d'avoir une amende de 3 700 euros si on en fait. Bon. Tout le monde. Il paraît qu'un million de Français l'ont déjà fait à l'étranger. C'est très important pour les enfants nés sous X, ou les enfants adoptés qui ne connaissent pas leur filiation, parce que là, ça peut vraiment leur permettre de retrouver leur ascendance.
Et c'est très important pour, en particulier, les gens qui sont issus de l'esclavage. Pour eux, de connaître, d'avoir la possibilité d'accéder à des tests ADN est extrêmement important. Et ils se lèvent d'ailleurs contre le terme d'analyse ludique. Pour eux, c'est pas du tout ludique. Pour eux, c'est essentiel de savoir ça.
Et si on commençait à construire notre arbre généalogique, de quel matériel a-t-on besoin, Marie-Odile Merniac? Un stylo, un bloc de papier et beaucoup de ténacité?
Oui, de la ténacité. Et puis, on commence par ouvrir ses tiroirs pour retrouver ses papiers, les papiers de famille concernant soi-même, ses parents, ses grands-parents, puisque Internet, c'est à partir de 100 ans, c'est tout.
On va détailler hein, les papiers qu'on peut retrouver dans ces tiroirs, dans ces placards, dans ces cartons. Tout d'abord, les livrets de famille. Beaucoup d'indications dans ces livrets de famille qui remontent à 1877. Hein.
Voilà, 1884 pour l'ensemble de la France, mais 1877 pour Paris, parce que l'état civil avait brûlé en 1871, et on a fait ça pour éviter une nouvelle catastrophe. Dans les livrets de famille,
qu'on va retrouver comme information très importante pour débuter notre arbre généalogique?
On trouve déjà trois générations. Les mariés, leurs parents, et tous les enfants du couple. Donc, si on a un livret de famille un petit peu ancien dans la famille, on a d'un seul coup, comme
d'or.
Ça, trois générations
c'est
complètes.
C'est une mine d'or.
Oui, bien sûr, c'est un point de départ extrêmement important.
Des lieux, des dates.
Ensuite, les albums photos. Les albums photos, pourquoi ils sont si utiles?
Parce que c'est touchant de pouvoir mettre un nom sur un visage, de pouvoir retrouver... Le visage, la physionomie, même les robes pour les femmes, c'est parfois très très joli ou très surprenant, d'aïeul de 1900-1880. Encore faut-il que quelqu'un ait pensé à mettre le nom au dos de la photo.
Oui, exactement. Les livrets militaires, c'est une pièce officielle créée sous le Second Empire. Il est très précieux si on a la chance de le trouver. C'est un bon point ça pour commencer à construire son arbre généalogique. Hein.
Oui, il indique tout le parcours militaire de l'aïeul, il indique aussi son état civil, les noms des parents, il donne sa description physique complète, donc vous savez si votre ancêtre mesurait 1m50 ou 1m90. Et puis, si le livret a été perdu, on peut quand même retrouver les informations qu'il contenait par le registre matricule dont on parlait tout à l'heure, donc sur grand mémorial pour les soldats de 14-18.
Voilà, c'est vrai que il y a moins d'informations sur ces fiches militaires parce que quelquefois la description de son ancêtre est quelquefois un petit peu obscure. Quand on vous dit que il a un front normal, j'ai un peu de mal quelquefois à savoir ce que c'est. Mais pour revenir sur les photos, effectivement, les photos c'est important. Moi, quand j'ai commencé jeune, j'ai embêté tous les oncles, les tantes, les grands-parents à sortir leur boîte de photos et en leur disant si vous voulez pas me les donner, au moins marquez derrière. Qui sait, parce que chaque personne qui décède, on perd cette mémoire.
Les faire-part, les plus intéressants, ce sont les faire-part de décès.
Oui, parce qu'ils listent toute la parentèle. Et dans un ordre autrefois très protocolaire, on a le veuf ou la veuve qui apparaît d'abord, ensuite les enfants par rang d'âge, les petits-enfants par rang d'âge aussi, puis les cousins, enfin, tout était très normé, et donc avec... un crayon, un papier, un petit peu de patience dans l'analyse, on peut reconstituer comme ça des dizaines de branches proches du défunt.
Les pièces notariées,
Ah, ça, c'est passionnant.
Ouais, alors, les actes de vente, d'achat, les donations, les contrats de mariage, voilà, ce sont des pièces fondamentales de l'histoire familiale. Hein.
Voilà, que l'on peut retrouver aux archives départementales. Il faut en général se déplacer, quasiment rien n'est numérisé. Parfois les répertoires des notaires, mais c'est tout. Mmh. Et ça donne... vous rentrez vraiment dans la vie et dans la maison. Vous avez la description, parfois pièce par pièce, dans les inventaires après décès, de la maison de l'aïeul.
Sandra Fontanot.
Oui, les inventaires après décès sont vraiment passionnants. Ouais. Moi, j'ai découvert ça sur le tard et j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo quand on entre dans les pièces comme ça d'une maison et qu'on les visite les unes après les autres. Et puis qu'on découvre, je sais pas, avec émotion, que son ancêtre, finalement, il avait juste deux casseroles et trois cuillères. Et il y a même des inventaires, j'ai vu, pour des personnes qui vivaient de mendicité, donc qui n'avaient presque rien. Donc c'est passionnant, quoi. Mais c'est vrai que ça demande plus d'efforts, il faut se déplacer. Et puis au niveau de la recherche, c'est plus compliqué quand même de trouver parfois.
C'est vrai que pour écrire, moi, des livres sur des moulins dans la région du Vexin, je me suis penché beaucoup sur les inventaires après décès, et c'est passionnant. Mais ça a pu prendre, à l'époque, énormément de temps.
Oui, c'est ça.
Sur un meunier qui exploitait deux moulins, ils ont mis 4 mois à faire l'inventaire.
Alors, si on a la chance d'avoir des octogénaires, des nonagénaires, des centenaires dans sa famille, il faut aller les interviewer. Hein. Mais attention, hein, l'entretien ne doit pas se transformer en interrogatoire policier, hein, Mario
voilà.
Dimerniac. Hein.
Alors, j'avais la chance de... Quand j'avais commencé à 12 ans ma généalogie et j'avais encore 3 arrière-grand-mères. J'ai une grand-tante qui est décédée à 110 ans et qui nous battait encore au Scrabble à 102. Et donc, qui m'ont raconté... Elle était fille d'un libraire parisien envoyé dans le Poitou chez ses grands-parents pendant la Première Guerre mondiale. Et elle les avait déjà interrogés et questionnés. Ils étaient nés dans les années 1860. Vous vous rendez compte la filiation des souvenirs qu'on peut glaner si on pense à interroger les personnes âgées quand elles sont encore là?
Absolument. Moi, j'ai un monsieur... Je donne des cours de généalogie dans ma commune et j'ai un monsieur qui a interrogé son papa de 91 ans, et qui parlait de son grand-père. Il parlait de choses qui sont déjà très anciennes.
Mmh. Sandra Fontanot.
Oui, bien évidemment. L'avantage qu'il y a avec la généalogie, c'est qu'il n'est pas très compliqué d'obtenir des informations, ouais. Même quand on s'adresse à sa propre famille. Les gens sont en général tout à fait contents de nous raconter leur vie, leur jeunesse, leurs souvenirs. Et puis des anecdotes, ils sont aussi contents de se remémorer des petites anecdotes auxquelles ils n'ont pas de réponse. Et c'est l'occasion aussi de lancer des recherches tous ensemble, en fait. Alors, c'est plutôt des moments très agréables de partage. C'est souvent des moments entre petits-enfants et grands-parents, par exemple, qui sont importants.
Alors ces petites anecdotes, moi ça me fait penser à ces jeux qu'on fait dans la cour de l'école où on met les élèves en rond, on donne une phrase au premier et puis on voit ce qu'il en ressort au bout. J'ai l'exemple de mes grands-parents qui me disaient nous avons des capitaines, eu un capitaine dans l'armée napoléonienne que je n'ai jamais retrouvé. Par contre j'en ai retrouvé un dans une branche de la famille, mais il était du côté anglais à la même époque.
On peut également visiter les cimetières, Mario Dimerniac, quand on construit son arbre généalogique, ça peut être très utile.
Oui, pour retrouver des cousins, surtout. Parce que quand on retrouve, par exemple, la tombe d'un arrière-grand-parent, souvent, à l'époque de nos arrière-grands-parents, les gens ne bougeaient pas trop, et on peut retrouver dans le cimetière beaucoup d'autres tombes portant le même nom. Avec des indications de prénom, de date, et on peut redescendre le temps et retrouver des cousins qui descendent de ces branches-là. Le cimetière est effectivement un lieu d'enquête.
C'est même l'opportunité pour faire un peu de vacances, de tourisme. C'est ce que je fais avec mon épouse, puisque nous allons de temps en temps en Grande-Bretagne, où j'y ai des ancêtres, où nous nous retrouvons quelquefois à 4 pattes dans les cimetières anglais, dans les pelouses, à essayer de déchiffrer la vieille pierre tombale.
Pour moi, c'est l'occasion de remercier ma nièce qui, il y a quelques années, visitait le cimetière de sa petite commune et a retrouvé par hasard un ancêtre que je cherchais depuis des années et des années. Donc c'est effectivement les cimetières parfois sont pleins de surprises.
On verra dans quelques instants comment classer et trier tous ces documents. Vous verrez qu'il est important de numéroter ses ancêtres. On verra comment s'y prendre. On écoute Françoise Hardy, Comment te dire adieu.
Je ne veux avoir de réflexes malheureux. n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris-bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu?
Françoise Hardy, comment te dire adieu?
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h33, comment réaliser un arbre généalogique? C'est notre thème ce matin. Nous attendons toutes vos questions. N'hésitez pas à nous raconter vos recherches au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Écoutons Jonathan qui a retrouvé une cousine grâce à ses recherches.
Mais le plus incroyable, c'est qu'il a découvert l'existence de membres de sa famille encore vivants qu'il a pu rencontrer.
Bonjour, ça va?
Ouais. Et toi?
C'est le cas de Jacqueline. Cette dame est la nièce de sa grand-mère.
Son père à Jacqueline, c'était Henri Hautecoeur,
ouais,
qui était le frère de ma grand-mère.
Frère de sa grand-mère, voilà. Ouais, c'est ça. C'était ton oncle alors.
Voilà, c'est ça.
Ah, c'est ça.
Grand-oncle,
hein.
Ouais. Voilà.
C'est compliqué dans tout ça.
Donc moi, je suis ton petit cousin.
Voilà. Voilà. <C'est ça. rire>
Depuis leur rencontre, Jonathan vient régulièrement rendre visite à Jacqueline.
C'est vrai qu'on s'entend bien. Hein.
C'est comme s'il y avait eu une séparation dans la famille, qu'on avait rattaché.
Voilà.
On avait rattaché les...
Je m'entends alors mieux avec lui qu'avec certains autres membres de la famille.
Voilà, c'est ça.
Extrait de La Quotidienne sur France 5. Voilà une bonne surprise hein, quand on construit son arbre généalogique. Marie-Odile Merniac, François Baron, je rappelle que vous êtes tous les deux généalogistes. C'est une belle surprise ça, de retrouver un cousin qu'on ne connaissait pas, une cousine.
Oui, c'est bien parce qu'on ne s'intéresse pas forcément qu'aux morts des siècles passés. C'est sympa de retrouver aussi des descendants contemporains. Et puis, on se fait des amis de tous les âges avec la généalogie. C'est ça qui est sympa.
Absolument.
Aussi
absolument.
Bien, on a des copains de 80 ans ou des copains de 20 ans.
Philippe nous demande comment faire lorsque l'on apprend que le père biologique n'est pas le père officiel. Pour l'hérédité, l'arbre devient artificiel. Marie-Odile Merniac.
Alors, il y a des généalogistes, dans ce cas-là, qui construisent un arbre de cœur avec les parents qui l'ont élevé et qui les ont élevés, et un arbre biologique. Ça peut être une solution.
Chantal, âgée de 69 ans, j'ai depuis ces dernières années l'envie, le besoin de connaître un peu plus les origines de ma famille. Fille de parents nés français en Tunisie, eux-mêmes issus de parents d'origine de Malte, de Sicile et de Sardaigne. Je n'ai plus les moyens d'interroger qui que ce soit de la famille ou d'accéder à des documents ou à des photographies. Comment puis-je faire pour avoir ces infos, des infos?
Alors Malte, il y a beaucoup de choses qui sont en ligne maintenant. L'Italie est en train de mettre tout son état civil en ligne sur un site gratuit qui s'appelle Antenati. L'Espagne s'y met aussi région par région. Et puis on a la surprise avec des sites collaboratifs comme Généanet, qui est un site gratuit, de pouvoir retrouver parfois, j'ai souvent rencontré des gens qui avaient retrouvé des photos de leurs propres arrière-grands-parents par des cousins lointains qu'ils ne connaissaient pas, ils retrouvent ces photos alors que eux-mêmes n'en avaient plus. Ils retrouvent ces photos grâce à ces sites.
Sandra Fontano, je rappelle que vous êtes sociologue et ingénieure à l'université de Picardie, Jules Verne.
Oui, oui, ce que dit Odile, Marie-Odile me parle beaucoup parce que c'est un monsieur m'a contacté il y a peu et il y avait toute une collection de photos de mon grand-père, de ma grand-mère jeune que je n'avais jamais vue. Donc c'était très touchant en fait de voir ce monsieur. J'ai bien remercié de m'avoir contacté pour ça. C'est assez impressionnant d'ailleurs quand ça arrive, je trouve.
Ouais. Alors, on va continuer à construire cet arbre généalogique. On a rassemblé les livrets de famille, on a interrogé la grand-tante de 95 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces documents? Comment on les classe? Comment on les trie? On a une masse. Voilà, on ne sait pas quoi en faire. On peut se sentir perdu, Mario Dilmernia. Comment
on
fait?
Oui, alors il faut effectivement être un peu ordonné.
Oui.
classer ça par famille, par nom de famille, par génération. Il y a plusieurs systèmes qui existent. Et puis maintenant, vous avez des logiciels gratuits ou dans le commerce qui vous permettent de saisir vos informations. Et puis quand les générations commencent à monter, l'ordinateur parfois réussit davantage à faire les liens ou à mémoriser que votre propre cerveau, donc ça peut aider.
François Baron.
Donc souvent on va commencer par soi-même, ses parents, ses grands-parents, on va compiler toutes les informations qu'on a pu glaner sur les différents documents récupérés, et puis à partir de cet embryon d'arbre, on va le construire. Alors dans le temps on le construisait sur un morceau de papier, maintenant effectivement, comme dit Marie-Odile, on le construit sur un logiciel de généalogie gratuit ou payant, qui sont souvent bien faits et qui permettent de faire des présentations très variées de son arbre généalogique et de le compléter au fur et à mesure.
Pourquoi est-il important de numéroter ses ancêtres et comment s'y prendre?
Alors, il y a une numérotation absolument universelle qu'on appelle Sosa Stradonitz, du nom de. On dit Sosa, pour faire plus court, du nom des généalogistes qui l'ont inventé au 16e ou 17e,
oui,
je ne sais plus.
16e, je crois, oui.
Et qui est comprise du monde entier. C'est-à-dire, soi-même, quand on commence son arbre, on se donne le numéro 1. Le père d'une personne de l'arbre, c'est toujours le numéro multiplié par 2, donc mon père sera le 2. Et la mère, c'est le numéro du père plus 1, 3. Et donc, ça permet de numéroter absolument tous les ancêtres. Et on sait, par exemple, automatiquement que l'ancêtre numéro 64, c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père. C'est plus facile à dire quand on échange avec d'autres généalogistes que de rajouter des arrières...
François Baron.
Numérotation qui permet de faire un petit peu de mathématiques avec les enfants.
Oui, exactement. Alors les archives, c'est essentiel quand on construit son arbre généalogique. Ça rime pas forcément avec poussière, toile d'araignée et ennui, Sandra Fontano.
Ah non, pas du tout. Depuis les années 90-95, il y a eu un grand coup de balai dans ce cas-là sur les archives, avec des bâtiments modernes, des grandes salles d'accueil, de lecture... très confortable d'ailleurs. C'est ce qu'on en parlait avec Monsieur Baron tout à l'heure. Les places étaient chères dans les années, au début des années 2000. Là, c'est un peu moins le cas. Et puis, voilà, c'est le matériel est renouvelé, l'accueil est chaleureux, douillet. Voilà, ça ne sent plus du tout la poussière. Et puis, avec les archives en ligne. J'imagine que les archives physiques sont un peu vidées, mais effectivement, tout est sur Internet.
On peut accéder à toutes les archives, Mario Dilmernia, ou est-ce qu'il y a des limites temporelles?
Oui, on ne peut pas consulter les archives qui sont trop récentes. Les archives judiciaires ne sont pas consultables en dessous de 75 ans. Même chose pour les archives de notaire. Si des documents concernent, par exemple judiciaires, concernent des enfants, la limite va être portée à 120 ans.
Et l'état civil?
Voilà. Alors pour l'état civil, c'est 75 ans. Sauf pour les actes de décès qui sont consultables immédiatement, mais en ligne, la CNIL a fixé la barre à 100 ans. Donc, si vous voulez faire votre généalogie depuis chez vous, vous pouvez remonter dans les registres d'état civil ou leur équivalent jusqu'à François Ier, mais en commençant il y a plus de 100 ans.
Ah, d'accord.
Donc, il faut.
Et pourquoi
au moins...
cette limite?
Pour ne pas interférer sur la vie de nos contemporains, pour protéger un
protéger
peu
les individus.
La
protéger
vie privée des contemporains.
Maxime nous demande, je n'ai pas réussi à trouver les membres de ma famille au-delà de 1650, est-ce normal? Dans un autre thème, en 1845, mon ancêtre, qui était une femme, a donné son nom à mon arrière-grand-père. Comment peut-on retrouver le nom du père inconnu? Bon, ça a l'air...
Ça, c'est compliqué.
Alors, la première question, 1645, c'est assez classique, c'est-à-dire que c'est François Ier, en 1539, qui a créé l'équivalent de l'état civil, mais c'était tenu en registre unique. Et ça n'est que dans les années 1660 que ça a été tenu avec un double exemplaire. Donc, si le premier est perdu, il peut passer par les archives de notaire, quand même, qui sont souvent, qui remontent deux siècles plus haut. Et puis sinon, pour l'arrière-arrière-grand-père inconnu en 1845, les tests ADN maintenant qui remontent sur 8 générations, peuvent lui donner la clé.
Alors j'aimerais qu'on démonte quelques idées reçues autour de la généalogie, Marie-Odile Merniac. Les archives ont été détruites à la Révolution, c'est ce qu'on entend très souvent.
Faux. On a brûlé les documents fiscaux parce qu'on n'avait pas envie de payer des impôts, mais on n'a pas brûlé les registres qui servaient à prouver un âge, un décès, un mariage.
Il suffit d'écrire aux mairies et elles vont faire la recherche généalogique à votre place, Sandra Fontano. C'est ce qu'on entend parfois.
Hein. Ça ne serait risque de ne pas être aussi simple que ça.
Ça a été le cas quand j'ai commencé.
Oui, après ils ont été débordés les pauvres.
Voilà, quand j'ai commencé, j'écrivais à une mairie et j'avais un employé de la mairie qui me demandait un acte, il m'en renvoyait 10 parce qu'il était lui-même passionné. Donc je pense qu'il faisait ça sur son temps de travail. Mmh. Mais maintenant, c'est plus possible.
Ouais, après, il y a eu l'étape où il fallait envoyer l'enveloppe timbrée pour la réponse. Ça, c'est comme le premier filtre. Et puis là, ça devient compliqué.
Non,
autre idée reçue, les Mormons ont maintenant les arbres généalogiques du monde entier. Expliquez-nous pourquoi les Mormons récupèrent l'état civil de toute la planète.
Alors,
c'est une croyance.
Ils considèrent que, puisque la révélation qui a donné naissance à leur religion date du 19e siècle, leurs ancêtres, pour qu'ils soient sauvés et qu'ils aient la vie éternelle, il faut qu'ils soient baptisés dans la foi mormone.
Sandra Fontano.
Oui, absolument, c'est ça. Il y a une recherche pour eux qui est plutôt compulsive, dans ce cas-là, et plutôt quantitative. Rechercher le plus d'ancêtres possible, faire des listings. Je me souviens, j'avais été très impressionnée par ça en les rencontrant. Imprimer des listings entiers de noms et tous les 2, 3, 4, 5 ans, les faire baptiser en groupe comme ça, lors de cérémonies, pour que justement, après leur mort, ils soient reconnus mormons.
Cela dit, effectivement, les Mormons qui sont très riches et qui ont un établissement central qui est à Salt Lake City conservent des quantités d'archives phénoménales sur énormément de pays du monde. Donc, ils n'ont pas toutes les généalogies de tous les habitants de la planète, c'est bien évident. Ni les archives de tous les pays. Mais ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents accessibles.
Oui, c'est grâce à eux qu'on a eu les premières numérisations d'archives en France.
Et c'est grâce à eux qu'on a les premières numérisations avec leur microfilm.
Tiens, j'aimerais qu'on accueille Lionel Godmet. Bonjour Lionel Godmet.
Bonjour.
Vous êtes professeur au collège Robert Bell, c'est ça, en Alsace?
C'est ça, oui.
Et vous animez un club de généalogie avec des jeunes et vous apprenez donc à ces jeunes à construire leur arbre. Comment ça se passe concrètement avec vos élèves? Expliquez-nous. Je crois que vous avez à côté de vous une élève de 3e, Ninon, qui va nous expliquer un petit peu cette passion pour la généalogie. Alors comment ça se passe Lionel Godmet?
Alors c'est un club, hein, on se retrouve une fois par semaine, entre midi et demi et 13h30. Et puis donc les élèves se retrouvent en salle informatique et puis on est là pour les accompagner et puis les encourager dans leurs recherches.
Mmh. Concrètement, comment ça se passe, ce premier cours de généalogie avec des jeunes?
Alors c'est comme pour tout début de recherche, on les invite à interroger leur famille.
Mmh.
Et puis ensuite à chercher s'ils ont des documents, les documents de la famille qui peuvent les aider. Et puis ensuite, on commence les recherches sur Internet avec les recherches qui sont en ligne.
Pourquoi l'arbre généalogique est-il un formidable outil pédagogique?
Alors je pense que ça répond aussi à un besoin des enfants et des jeunes comme pour les adultes. Et puis je pense qu'il y a plein d'autres, c'est particulièrement pertinent parce que ça les aide vraiment à se repérer dans le temps, dans l'histoire. C'est aussi une éducation aux médias. Tout à l'heure vous avez parlé de Généanet. Les élèves sont souvent tentés de recopier tout ce qu'ils trouvent sur Généanet. Or on leur explique que voilà, faut pas prendre tout pour argent comptant et qu'il faut vérifier toutes ces informations. Donc il y a vraiment aussi une éducation aux médias lorsqu'on fait des recherches en généalogie avec des enfants.
Mmh. Alors est-il vrai que certains de vos élèves ont découvert qu'ils étaient cousins?
Et oui, Nino va pouvoir vous en parler, mais on a plusieurs élèves qui ont réalisé qu'ils avaient des ancêtres communs.
Bonjour Nino, bienvenue.
Bonjour.
Tu es donc élève en troisième. Qu'est-ce qui te passionne tout d'abord dans la recherche généalogique?
Alors ce qui me passionne, c'est plutôt de savoir comment mes ancêtres ont été dans leur mode de vie et leur travail, et ainsi trouver des cousins, comme le disait M. Godmet.
Tu as trouvé des cousins grâce à ces recherches?
Oui.
Mais raconte-nous.
D'ailleurs, comme Monsieur Godemet, justement, il avait cherché de mon côté pour m'aider, pour me décoincer, et on va dire que il a découvert que nous sommes cousins, mais de très loin.
Qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue personnel, ces recherches généalogiques ?
D'un point de vue personnel, ça m'a apporté, comment expliquer ça ? De finalement la curiosité de savoir toujours plus comment mes ancêtres vivaient, et c'est ce qui m'a passionné en fait.
François Baron, j'ai l'impression que ces recherches généalogiques avec des collégiens, des lycéens, ça contribue à la construction de leur identité et de leur personnalité.
Absolument. Ouais. Depuis la réserve citoyenne qui a été créée par Najat Mfellow-Belkacem, on s'est beaucoup investi dans l'association pour intervenir avec des enseignants dans des classes. Et effectivement, la notion de citoyenneté, de vivre ensemble, sont des choses extrêmement importantes pour ces élèves. Ils se découvrent en atelier, comme la jeune fille qui vient de parler, qui s'est découvert des cousins. C'est fréquent, c'est fréquent.
Vous connaissez Lionel Godemet, je crois.
Oui, Monsieur Godemet qui
il a reçu un prix,
qui vient de recevoir le prix de la Fédération française de généalogie
pour
sa classe et qui va, je crois, distribuer ses prix bientôt.
Bravo Lionel Godemet et merci beaucoup d'être intervenu sur France Inter ce matin. J'aimerais qu'on reçoive, qu'on accueille, pardon, au téléphone Manon. Bienvenue Manon. Bonjour Manon.
Oui, bonjour.
Alors vous avez entamé des recherches généalogiques, c'est ça ?
Oui, en fin de compte, à la naissance de notre second enfant, plus précisément, s'est posé la question, en fin de compte, vraiment d'en savoir plus sur le grand-père maternel de mon époux, qu'il n'avait jamais connu. Donc, et nous n'avions pas l'opportunité de, justement, avoir des renseignements par la famille. Le contexte familial était assez compliqué. Et nous sommes juste partis de l'acte de naissance de mon mari. Mais malheureusement, il nous manquait l'élément primordial pour pouvoir avancer, qui était l'acte de reconnaissance de paternité. Parce qu'en fin de compte, la maman de mon époux est née, n'a pas été reconnue à sa naissance. Voilà, et c'est grâce à une personne d'archives de la municipalité qui a fait cette démarche auprès du lieu de naissance de cette grand-mère que l'acte de paternité est arrivé. Donc, parce que je voulais déjà préciser, c'est vraiment quand on commence des recherches par rapport à l'état civil, de demander cet acte de paternité, parce que moi, je n'y avais absolument pas pensé. Et c'est ça qui nous a permis d'avancer.
Marie-Odile Merniac.
Oui, c'est effectivement, dans des cas comme celui-ci, un acte qu'il faut retrouver et qu'on retrouve dans le passé pour des périodes plus lointaines aussi.
Merci beaucoup Manon de nous avoir appelé. Dans quelques instants, nous continuons à partager des conseils pour construire votre arbre généalogique. On écoute General Electric.
Floor. How did we get used to this mess?
General Electric's Pick Up the Pieces.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h52, comment réaliser un arbre généalogique, c'est notre thème ce matin. Alors Marie-Odile Merniac, François Baron, je rappelle que vous êtes généalogiste, Sandra Fontaneau, vous êtes sociologue, spécialiste de la généalogie. Une fois qu'on est pourvu d'une généalogie importante, comment l'étoffer? Dans votre jargon, on parle d'étoffer son arbre. Ça veut dire quoi exactement, Marie-Odile Merniac?
Ça veut dire redonner de la vie aux personnages qu'on a trouvés. Pas seulement se contenter des noms, des lieux, des dates, mais retrouver leur métier, retrouver l'intérieur de leur maison, on l'évoquait tout à l'heure, retrouver la couleur des robes de l'aïeul de 1720, ça
c'est
marche, hein, on peut
ça,
le faire, et les dissensions avec la famille, les voisins.
C'est passionnant, Sandra Fontaneau.
Oui, oui, j'aime beaucoup rechercher aussi les déplacements des familles entre les villages et essayer de comprendre pourquoi ils ont déménagé à telle époque. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais on peut trouver une foule de petits détails qui, un peu à la Alain Corbin, sur l'histoire du quotidien, qui retrace un peu comme ça la vie des personnes.
Je disais qu'on n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos ancêtres tout à l'heure, mais j'en ai trouvé un, moi, qui vendait sous la Révolution ses fagots et ses chandelles au-dessus du prix taxé, et donc qui s'est retrouvé en prison pour avoir récidivé.
Alors nous recevons énormément de questions, on va essayer d'y répondre simplement. Jean-Marc nous demande à propos de la numérotation SOSA qu'on a évoquée tout à l'heure, comment numéroter les frères et sœurs, les oncles et les tantes?
Ah, alors il n'y a aucun système cohérent et accepté par tout le monde. Il y a eu différentes tentatives, mais rien n'est simple, parce que un couple peut avoir un seul enfant comme 22, donc c'est impossible de numéroter ça de façon fiable.
Dominique nous dit, les recensements sont également une mine d'informations. Ils donnent la composition de la famille vivant dans le foyer, les professions des parents. Il y avait plusieurs générations souvent sous le même toit. On peut les consulter sur le site des archives départementales. Sandra Fontaneau.
Ah oui, j'ai découvert ça il y a peu de temps, moi. Je trouve ça absolument passionnant de voir qui vivait dans le même foyer ou qui vivait dans la maison d'à côté, et ça permet parfois de retrouver aussi des ancêtres dont on a perdu la trace et qui à un moment donné sont là. Et puis on a aussi des âges, des dates de naissance ou des lieux de naissance qui permet parfois de débloquer des généalogies.
Alors ça, c'est valable pour le 19e siècle et le début et le 20e, bon, même si les recensements ont beaucoup changé par rapport au 19e siècle, mais c'est vrai que ça permet de suivre l'évolution d'une famille puisque les recensements étaient faits tous les 5 ans à partir de
1836. Et puis voir qui vit avec qui, je trouve ça passionnant, enfin je trouve ça émouvant en fait.
Beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Comment ça se passe si je n'ai pas envie de me lancer seul dans la construction d'un arbre généalogique? Comment trouver le bon généalogiste? Et est-ce que ça coûte cher de faire appel à ses services, Marie-Odile Merniac?
Alors, moi je dirais qu'il faut d'abord se rapprocher du milieu associatif, où on va retrouver des passionnés qui vont travailler sur la région, le village dont on est originaire. On peut faire appel à des généalogistes professionnels, qui sont des généalogistes familiaux professionnels, qui vendent des prestations. Bon, je connais pas vraiment les tarifications, mais il y a effectivement des gens qui...
Oui, de mon côté, je ne fais pas de recherche pour les particuliers, donc je ne sais pas quel.
Je crois que ça coûte assez cher.
Sandra Fontaineau.
Moi, j'en avais croisé un, mais c'était dans un temps reculé. Je me souviens.
C'était en francs.
Exactement. Il me parlait de ses débuts où il demandait 50 francs par acte.
D'accord.
Et voilà. Et c'est vrai que je me demandais récemment si ça fonctionnait encore bien. C'était un métier qui était quand même dont il était difficile de vivre
parfois pour débloquer quelque chose.
Ce qui fonctionne, c'est les généalogistes successoraux.
C'est complètement différent.
C'est un autre métier.
Ce sont les notaires qui font appel à eux quand ils ont une succession dont ils ne connaissent pas les héritiers. C'est très différent.
J'aimerais qu'on accueille Brigitte. Bienvenue, Brigitte.
Bonjour, merci de prendre ma question.
Vous appelez Damien.
Oui, tout à fait. En quelques mots, mon grand-père afro-américain est arrivé en France pour la guerre de 14-18. Il a été enrôlé, il est arrivé en 17 avec les Américains et il a épousé une Normande, il a vécu en France. Mon père est décédé, j'étais très jeune, j'ai vraiment peu d'informations et j'aimerais remonter justement la piste de mon grand-père paternel qui vivait du côté de la Nouvelle-Orléans et je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Est-ce que les Mormons en effet ont assez
De ressources
est-ce que quelqu'un peut me donner une piste?
Ben Marie-Odile Merniak va se dévouer pour vous.
Alors, sur l'Amérique du Nord, effectivement, vous pouvez utiliser Family Search, qui est le site des Mormons et qui donne accès à des millions, des centaines de millions d'actes et de documents. Il existe aussi...
Il y a MyHeritage qui est le site, un site israélien, où voilà, il n'y a peut-être pas les mêmes documents.
Ancestry aussi, a aussi, oui. Sur l'Amérique du Nord, énormément de bases de données. Les deux qu'on vient de citer à la fin sont payants. Family Search peut être consulté gratuitement, mais n'a pas forcément tout. Donc voilà, il faut explorer un peu tout.
Peut-être pas non plus négliger l'entraide. Vous en parliez tout à l'heure, Marie-Olive, qui est très très forte chez les généalogistes. Et il n'est pas rare de trouver soit une association locale dans un autre pays qui peut vous aider, soit une bouteille à la mer sur Généanet, par exemple, qui permet, une personne sur place peut vous aider à faire des recherches pour vous aussi. Il ne faut pas négliger l'entraide qui est très 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 forte chez les généalogistes.
Merci beaucoup, Brigitte, de nous avoir appelé. Tiens, justement, sur les sites comme Généanet, qu'est-ce qu'il faut en penser, Sandra Fontano, Marie-Odile Merniak?
Deux grands sites français, c'est Généanet et Philae. Généanet, c'est un site contributif où tous ceux qui le veulent bien mettent leur arbre. Philae, lui, indexe l'état civil des archives départementales. C'est une autre démarche.
François Baron.
Ce sont des bons outils, mais ce sont des outils. C'est pas une finalité. Ça permet de retrouver des choses qu'on n'aurait pas trouvées autrement.
Il faut toujours vérifier. Toujours vérifier les sources. Chercher soi-même après.
Bon, et merci à tous. Merci de nous avoir aidés à construire notre arbre généalogique. Merci François Baron. Merci Marie-Odile Merniak. On peut lire également La généalogie pour tous chez Autrement. Merci également Sandra Fontano d'être venue ce matin. Demain, vous retrouverez Grand bien vous fasse, loisirs.